Mes bien chers amis, le journal Vers Demain est une mine d'or de bons principes, d'explication de ces principes et d'application aux actualités. Il faut le lire. Je vous présente aujourd'hui deux courts articles de Vers Demain. L'un qui explique comment l'argent est fabriqué par les banques. C'est bien nécessaire de savoir ça. L'autre qui donne la pensée de l'Église catholique sur les écoles mixtes. L'argent est fabriqué par les banques. Aussi, l'argent est détruit par les banques. Cet argent-là dont nous nous servons aujourd'hui, cet argent-là n'est pas social. Il est antisocial. La première chose que les citoyens d'aujourd'hui doivent réclamer des législateurs, c'est de changer le système financier. Le système financier, c'est le système d'argent. L'argent est fabriqué par du monde. Ce sont les banquiers. L'argent est détruit par du monde. Ce sont les mêmes banquiers. Et l'argent est fabriqué actuellement comme une dette sur le dos des citoyens en tant qu'industriels et sur le dos des mêmes citoyens en tant que contribuables. Tout l'argent qui se fabrique aujourd'hui est une dette que les citoyens doivent rembourser. Il n'y a pas un sou qui vienne au monde aujourd'hui sans être une dette. Tout l'argent qui circule dans le pays, c'est de l'argent dette. Quand un industriel développe une industrie, il le fait avec de l'argent emprunté de la banque. C'est de l'argent dette, fabriqué comme dette, à rembourser par l'industriel. Quand le gouvernement développe le pays, il le fait avec de l'argent emprunté de la banque. C'est encore de l'argent dette que le gouvernement remboursera à même les taxes prises dans les porte-monnaies des citoyens contribuables. Les citoyens, quand ils fabriquent de la production privée, se servent de l'argent dette. Et quand les citoyens fabriquent de la production publique, comme les routes, ils se servent encore de l'argent dette. Les citoyens élèvent les richesses privées et les richesses publiques eux-mêmes. Et c'est le banquier qui fabrique tout l'argent qu'il faut pour payer les richesses bâties par les bras des citoyens. Les citoyens travaillent de leurs bras et de leur cerveau. Les banquiers édifient une dette en même temps sur le dos de ceux qui y travaillent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps, mes amis, de songer à changer ce système financier-là? Ne pourrait-on pas se donner un système financier contrôlé par les bâtisseurs du pays eux-mêmes au lieu de laisser le système financier être contrôlé par des banquiers qui ne produisent pas une pomme de terre? Les travailleurs font l'ouvrage et les banquiers endettent les travailleurs à mesure que la richesse s'élève dans le pays. À mesure, la dette s'élève aussi dans la même proportion. Et la dette, c'est une hypothèque sur le dos du travailleur lui-même et au profit du banquier, qui lui n'a pas sué une seule goutte de sueur. Il est temps de changer cette manière de faire l'argent. Grand temps. D'abord, ce qu'il faut, c'est un système financier contrôlé par la société elle-même, la même société qui produit et qui consomme, et non pas un système financier contrôlé par des banquiers complètement étrangers à la production et à la consommation, et qui n'ont aucun compte à rendre à la société productrice et consommatrice. Tant que nos gouvernements n'auront pas décidé d'enlever aux banquiers leur contrôle sur la naissance et la mort de l'argent, ils n'auront pas accompli le premier acte de leur devoir. Que nos gouvernements Enlève-toi la banque, ce pouvoir indu sur l'argent, que nos gouvernements établissent une institution sociale qui détiendra ce pouvoir sur la naissance et la mort de l'argent. Des maisons de crédit sociales, responsables à la société et non pas responsables à des particuliers. Maintenant, voici l'autre article que je vous ai promis, mes amis, sur la mixité ou coéducation des sexes. Ce que pense l'Église de la mixité dans les écoles. Pie XI de l'encyclique Divini Ilius Magistri, 30 décembre 1929, ce n'est pas changé depuis ce temps-là. Ceux qui disent que l'Église a changé mentent. L'Église est toujours la même. Voici donc les paroles de Pie XI. Il dit, c'est une erreur du même genre et non moins pernicieuse à l'éducation chrétienne que cette méthode dite de coéducation des sexes, méthode fondée, elle aussi, aux yeux d'un grand nombre, sur un naturalisme négateur du péché originel. En outre, pour tous étonnants, elle provient d'une confusion d'idées déplorables qui remplace la légitime communauté de vie entre les hommes par la promiscuité et le nivellement égalitaire. Le Créateur a ordonné et disposé la parfaite communauté de vie entre les deux sexes seulement dans l'unité du mariage. Ensuite, elle les sépare graduellement dans la famille et dans la société. Il y a d'ailleurs, dans la nature elle-même, qui a fait les sexes différents par leur organisme, par leurs inclinations, par leurs aptitudes, il n'y a aucune raison qui montre que la promiscuité, et encore moins une égalité de formation, puisse ou doive exister. Les sexes, suivant les admirables desseins du Créateur, sont appelés à se compléter réciproquement dans la famille et dans la société, et justement par leur diversité même. Cette diversité est donc à maintenir et à favoriser dans la formation et dans l'éducation, en sauvegardant la distinction nécessaire, avec une séparation correspondante, en rapport avec les âges différents et les différentes circonstances. Ces principes sont à appliquer en temps et lieu, suivant les règles de la prudence chrétienne, à toutes les écoles, mais principalement durant l'adolescence, la période la plus délicate et la plus décisive de la formation. Dans les exercices de gymnastique ou de délassement, que l'on est particulièrement égard, dit le pape, que l'on est particulièrement égard aux exigences de la modestie chez les jeunes filles pour qui il est d'une souveraine inconvenance de se montrer et de s'exhiber aux yeux de tout le monde. En voilà une bonne pour nos éducateurs d'aujourd'hui, soi-disant éducateurs. Nous ressouvenant des paroles redoutables du divin maître, dit Pie XI. Malheur au monde à cause des scandales. Nous adressons un pressant appel à votre sollicitude et votre vigilance, vénérable frère, au sujet de ces erreurs. On ne peut plus pernicieuses qui, trop largement, se répandent dans le peuple chrétien pour le plus grand dommage de la jeunesse. Erreur de la coéducation des sexes. Et les évêques de France, dans une lettre pastorale et collective du 24 mars 1934, demandaient aux parents de s'opposer à l'établissement des écoles mixtes. Premièrement, disaient les évêques, l'école géminée, l'école mixte, par la juxtaposition prolongée des enfants de l'un et de l'autre sexe sur les bancs d'une même classe et dans les mêmes lieux de récréation, est la voie qui conduit trop aisément à la coéducation des sexes condamnée par le pape Pie XI et aussi par la morale catholique. Dès lors, elle est par elle-même un danger et l'intérêt moral des enfants demande qu'elle ne soit pas établie. Les enfants courent, en fait, dans ces écoles géminées, un grave danger de perversion morale. À tout prix, il faut les en préserver. Avant tout, il faut sauver leur âme. Voilà un conseil d'importance, chers parents. Avant tout, il faut sauver l'âme de vos enfants. Ce sont les évêques de France qui le disent. Quelles que soient les circonstances actuelles, circonstances d'école, il faut sauver l'âme de vos enfants, et l'âme de vos enfants est en danger, je le dis avec fermeté, dans nos écoles actuellement, dans la province de Québec et dans les autres provinces du Canada. Ce n'est pas si important que ça d'aller à l'école et d'y apprendre le mal. Ensuite, voici le témoignage de Pie XII. 25 mars 1954. Il dit, les éducateurs feront œuvre plus juste et utile en inculquant aux adolescents les principes de la pudeur chrétienne qui est si utile pour conserver la virginité et que l'on peut justement appeler la prudence de la chasteté. La pudeur prévient le péril qui menace, empêche de s'exposer au danger et conseille d'éviter les occasions auxquelles s'exposent ceux qui sont moins prudents. La pudeur n'aime pas les paroles déshonnêtes et vulgaires et elle a horreur de l'immodestie, même très légère. Elle se garde avec soin d'une familiarité suspecte avec les personnes de l'autre sexe. La pudeur porte fermement à donner au corps le respect qui lui est dû comme membre du Christ et comme temple du Saint-Esprit. Celui qui connaît cette modestie chrétienne a en horreur tout péché d'impureté et il s'écarte immédiatement chaque fois qu'il se sent attiré par ses séductions. C'étaient les paroles de Pie XII. Et le Concile Vatican II, à qui on attribue tant de renouveau. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Le Concile Vatican II, lui, a fait une déclaration sur l'éducation chrétienne le 28 octobre 1965, ce n'est pas si vieux. Il rappelle, parents et éducateurs doivent tenir compte dans toute l'éducation de la différence des sexes et du but particulier attribué à chacun par la providence divine dans la famille et dans la société. Et la déclaration du Concile Vatican II renvoie à l'encyclique dont nous avons parlé tout à l'heure de Pie XI et à la doctrine qu'elle expose. Cette encyclique était pourtant écrite en décembre 29. Ce qui veut dire que dans l'Église, rien ne change. Les principes ne changent pas. Et ceux qui font trop de changements ne suivent pas l'Église. Ce sont des hérétiques dans l'Église. Nos pauvres enfants du Canada, mes amis, qui sont forcés par l'État à cette vie mixte, sont de grandes victimes. Nous sommes entrés dans les fêtes de Pâques. Nous souhaitons qu'une résurrection des principes de l'Église informe la vie de nos écoles et de nos familles au plus tôt. Sinon, plusieurs générations de chez nous seront sacrifiées sur l'autel du paganisme, l'autel de Satan. Notre foi dans le Christ ressuscité devrait l'appeler, lui, à notre secours, lui, le vainqueur de la mort. Croyons en lui, prions-le, allons l'adorer le dimanche de Pâques dans son Saint-Sacrement, allons donc faire une heure d'adoration à Pâques. Il nous attend, il nous répondra si nous lui parlons.